La meilleure radio, c'est celle que vous écoutez.
Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité.
Dimanche 7 janvier 2024, premier dimanche de l'an 2024, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à tous. Vous suivez Radio Afrique Santé, c'est l'heure de faire le point des principales informations diffusées dans les différentes éditions du journal cette semaine. Pour ce premier numéro de l'an 2024 au micro, je suis Fortuné Doty, santé ancêtre de la semaine de ce lundi 1er janvier à ce dimanche 7 janvier 2024. C'est parti pour le condensé. Démarrons déjà par cette bonne nouvelle à l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi-Souava. C'est la naissance d'un bébé qui a annoncé la nouvelle année. Le premier bébé de l'année 2024 à l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi-Souava est de sexe masculin. Il a vu le jour le 1er janvier 2024 à 4h47 minutes. Sa mère est à son premier geste. La nourrice de 21 ans et son bébé se portent à merveille. Ewan Olidi nous donne des détails sur cette naissance.
Il a fallu attendre 3 heures de loge pour avoir le premier bébé de l'année 2024 au centre hospitalier et universitaire de zone à Abomey-Calavi-Souava. Ce bout de chou est né par césarienne, mais sa mère est encore inconsciente. Pour l'heure, impossible de parler à la gynécologue. Toutes nos tentatives sont vaines.
Donc je dois faire tel que vous voulez.
Elle nous confie tout de même à la sage-femme ayant assisté à la naissance. Estelle Zadji nous dit comment ça s'est passé.
Le bébé a vu le jour dans notre hôpital à 4h47 minutes. Il est de sexe masculin.
D'accord.
Il n'est pas césarien. La maman et le nouveau ne se portent bien.
À la salle d'accouchement, les agents de santé étaient confrontés à une situation d'urgence mettant en jeu le pronostic vital de l'enfant. Il fallait donc l'option de la césarienne pour sauver le bébé, explique la sage-femme Estelle Zadji.
Nous avons constaté qu'il y a une souffrance fœtale qui est en train de s'installer.
Donc c'était pour ne pas perdre l'enfant ni la mère.
La mère, oui, que nous avons été à la salle.
La nourrice est à son premier geste, n'est-ce pas?
Oui, c'est sa première grossesse. Elle est âgée de 21 ans.
Il faut dire qu'à l'hôpital de zone Abomey-Calavi-Souava, 4 naissances ont été enregistrées aux dernières heures de l'année 2023.
C'est la fête et pendant cette période, le contrôle de l'alimentation s'avère difficile. Pour certains, c'est l'excès en alcool et pour d'autres, c'est la consommation de la viande de toute nature. Dans nos éditions de cette semaine, nous nous sommes intéressés à la consommation de la viande du chien. Est-il bon de consommer cette viande? Est-ce vraiment une viande ayant plusieurs vertus spirituelles comme le sous-tendent les consommateurs, nutritionnistes et spiritualistes tentent de répondre à ces questions dans cet élément réalisé, Mariella Do.
Les hommes ont toujours entretenu un certain rapport humain avec le chien depuis les origines. Mais aujourd'hui, ce compagnon de l'homme est devenu un objet de consommation comme un autre. Un phénomène contemporain qui, en 10 ans, a explosé en termes de chiffres. Si pour certains, consommer de la viande du chien n'est pas mauvais en soi, il y en a pour qui une pareille attitude est inenvisageable.
Bon, moi, je ne consomme pas la viande du chien, puisque quand je vais citer les viandes là, depuis que je suis né là, on m'a jamais parlé de la la viande du chien que c'est une viande qu'on peut consommer.
Je n'ai jamais mangé la viande du chien. C'est un animal domestique. Même si j'ai des amis qui mangent ça là, je suis contre.
Pourquoi je ne mange pas la viande du chien? Parce que je ne consomme pas le fait de manger du chien. Je ne peux même pas manger un chien parce que déjà, genre, pour moi, le chien c'est un animal de compagnie. Je ne peux pas manger un chien. C'est même impossible pour moi de manger un chien.
Bon, est-ce que je vais dire que je ne mange pas? Ce n'est pas interdit. Je n'ai pas encore trouvé. Si je trouve, je vais en manger.
Je consomme bien la viande de chien. J'apprécie cette viande. C'est pour cela que je la mange.
Pour le chef de culte Fodum, Modeste Avokpo Yaovi, dit Hunomainu, la consommation de la viande de chien peut avoir de graves répercussions sur le consommateur.
Le chien représente un legba, le signe legba. C'est un animal domestique qui possède beaucoup d'esprit. Donc, dès que tu consommes trop la viande du chien, sois sûr et certain que tu as des malédictions, tu as des choses que tu ne pourrais pas dire. En ce sens, on dit que ah, c'est toi, non. C'est le chien que tu as de consommer parce que le chien est spirituel. Ce que le chien représente dans une maison, c'est le chef gardien. Donc, c'est comme si tu as de consommer un être humain debout.
Malgré les revers spirituels de la consommation de viande de chien, sur le plan nutritionnel, il n'est pas prouvé que cette viande est impropre à la consommation. Bien au contraire, c'est un aliment bénéfique pour l'organisme humain vu ses apports en protéines et en fer. Rebecca Sagboran, nutritionniste diététiste.
La viande de chien est une viande, comme toutes les autres viandes rouges, excellente source de protéines. Et les protéines jouent un rôle important au niveau de l'organisme. Chez les adultes, les protéines favorisent le renouvellement cellulaire, favorisent les cicatrisations, tout ce qui rentre dans le fonctionnement, dans la constitution de plusieurs enzymes. La viande de chien est également riche en fer. Et le fer entre dans la formation de l'hémoglobine. Pour être plus simple, le fer favorise une bonne production du sang. Donc, le fer va prévenir tout ce qui est anémie au niveau de l'organisme. La viande de chien contient également des lipides, du cholestérol, mais pas de façon exagérée quand même. L'organisme a également besoin de cholestérol pour son bon fonctionnement. La viande rouge contient cette substance-là.
L'essai en toute chose nuit gravement, dit-on. Cette viande n'en fait pas l'exception du fait de sa forte teneur en cholestérol, selon la nutritionniste Rebecca Sagboran.
La viande de chien, comme toutes les autres viandes rouges, est une viande qui a pas mal de bienfaits au niveau de l'organisme. Mais n'oublions pas que pour les consommateurs, la viande de chien est une viande rouge et la consommation excessive de viande rouge a beaucoup de conséquences sur l'organisme. Donc, je dirais tout simplement qu'ils n'exagèrent pas dans la consommation de cette viande de peur de faire face aux conséquences liées à la consommation excessive de cette viande.
Restons toujours dans le registre de l'alimentation et parlons d'intoxication alimentaire. Une intoxication alimentaire résulte de la consommation de poissons ou d'aliments contenant des bactéries, des parasites ou des poisons. Les cas d'intoxication alimentaire peuvent survenir d'une mauvaise alimentation en période de fête. Quels sont les signes d'une intoxication alimentaire? Est-elle grave? Élément de réponse avec le nutritionniste diététiste Sauté Béli.
Lorsque nous parlons d'intoxication alimentaire, il faut simplement retenir que c'est l'ensemble des signes et des symptômes qu'une personne ou que plusieurs personnes présentent suite à l'ingestion d'aliments contaminés par des agents pathogènes. Et ces agents pathogènes peuvent être des bactéries, des virus, des parasites ou des produits chimiques. Retenons que l'intoxication alimentaire peut découler de la contamination de l'aliment avant, pendant ou après la préparation. La majorité des intoxications alimentaires sont généralement bénignes, mais parfois graves, voire mortelles, surtout lorsqu'il s'agit des produits phytosanitaires.
Les signes surviennent souvent quelques heures ou quelques jours après l'ingestion du produit. Et bon, souvent, c'est les nausées, les vomissements, la diarrhée, la fièvre, les maux de tête.
Il faut dire que pour se prémunir d'une intoxication alimentaire, les spécialistes recommandent qu'il faille tout d'abord faire preuve d'une hygiène irréprochable. Il faut par exemple bien se laver les mains avant de préparer les repas et particulièrement en sortant des toilettes. Désinfecter régulièrement son réfrigérateur et aussi respecter les dates limites de consommation indiquées sur les emballages. Au lendemain des fêtes, le cas de constipation et indigestion sont fréquents. Mais quelle est la différence entre constipation et indigestion? C'est la question qui était au centre de notre édition du journal de la journée du mercredi 3 janvier 2024. Souvent confondus par les patients, la constipation et l'indigestion sont perçus comme étant des synonymes. Pourtant, il existe bel et bien des caractères permettant de faire la distinction de ces termes qui paraissent semblables. Docteur Robert Baba, médecin en service à l'hôpital de zone de Clocamain, nous fait ici la nuance entre constipation et indigestion.
Cette question vient à point nommé en ce sens que il y a beaucoup de patients que nous recevons en consultation qui n'arrivent pas à faire une différence entre l'indigestion et la constipation. De même, il y a des agents de santé, notamment les aides-soignants et quelques infirmiers qui n'arrivent pas à faire cette différence. La différence déjà peut être perçue à partir de la définition de ces deux termes. L'indigestion, c'est une mauvaise digestion. Or, la constipation, c'est une absence de sel depuis au moins 3 jours. Et lorsque ces sels arrivent, elles sont dures. Autrement dit, la constipation, c'est juste le contraire de la diarrhée. C'est juste un symptôme, un signe qui est souvent dû à plusieurs maladies. La constipation n'est pas le signe propre d'une maladie. Or, on venait de dire que l'indigestion est juste une mauvaise digestion. Donc celui qui a une mauvaise digestion peut toutefois émettre des selles tous les jours. Donc l'indigestion n'est pas à confondre avec la constipation.
Selon le médecin Robert Baba, plusieurs maladies peuvent entraîner la constipation et l'indigestion. À l'en croire, la maladie causale doit être prise en compte dans le traitement de ces deux pathologies. Il revient sur le mode de traitement de la constipation et de l'indigestion.
Cette question vient à point nommé en ce sens qu'il y a beaucoup de patients que nous recevons en consultation qui n'arrivent pas à faire une différence entre l'indigestion et la constipation. De même, il y a des agents de santé, notamment les aides-soignants et quelques infirmiers qui n'arrivent pas à faire cette différence. La différence déjà peut être perçue à partir de la définition de ces deux termes. L'indigestion, c'est une mauvaise digestion. Or, la constipation, c'est une absence de sel depuis au moins 3 jours. Et lorsque ces sels arrivent, elles sont dures. Autrement dit, la constipation, c'est juste le contraire de la diarrhée. C'est juste un symptôme, un signe qui est souvent dû à plusieurs maladies. La constipation n'est pas le signe propre d'une maladie. Or, on venait de dire que l'indigestion est juste une mauvaise digestion. Donc celui qui a une mauvaise digestion peut toutefois émettre des selles tous les jours. Donc l'indigestion n'est pas à confondre avec la constipation.
Toujours dans l'euphorie des fêtes, Radio Afrique Santé s'est intéressée dans son édition du journal du jeudi 4 janvier 2024 à l'ambiance des fêtes à la place de l'Amazone et à Canal Olympia de Cotonou. Dans ces places publiques et lieux de divertissement, l'heure est toujours à la fête. Suivez ce reportage signé Rachel Bassassi.
Esplanade des Amazones à Cotonou. Ici, au pied de l'Amazone, on note une foule considérable. Ils sont nombreux à venir se détendre. On se croirait bien à un carnaval. Pourtant, ce n'est que des citoyens qui sont sortis pour se divertir et profiter de cette période de fête.
Vite, toi, bouge un peu.
Ouais, vraiment, nique bien alors.
Quelques fêtards rencontrés sur les lieux disent sortis de leur zone de confort pour se faire du plaisir.
Je suis venu avec madame et les enfants. Bon, vous savez, c'est les fêtes. Donc, on est sorti quand même de notre cadre de vie parce que habituellement, on est resté à la maison. Mais aujourd'hui, on a voulu quand même sortir de notre cadre de vie pour venir changer un peu d'air, d'être en contact avec le monde. Sinon, il n'y a pas un programme spécial. On est juste venu sortir de notre cadre de vie, venir découvrir un nouveau cadre de vie. Les enfants, ils vont aimer. Donc, voilà, c'est pourquoi on ne sait pas. Il n'y a pas un programme spécial. Mais c'est le fait qu'on était habitué à rester à la maison tout le temps. Mais comme c'est l'occasion des fêtes, on est sorti pour venir prendre contact avec les gens. Voilà.
Je suis venu ici avec ma famille pour se distraire. On veut juste le distraire, un peu prendre de l'air, prendre quelques photos et repartir à la plage.
Non loin de là, on retrouve un groupe de jeunes venus pour se changer des idées.
J'ai décidé de venir à la place Amazone pour me distraire un peu parce qu'après 365 jours, il faut en réalité rendre grâce à Dieu, se distraire avant de reprendre le boulot.
On est venu Santiago, au fait. Bon, on est venu s'amuser pour rencontrer, au fait, le symbole de l'Amazon. On a prévu faire des photos avec l'Amazon. Après, bon, s'amuser un peu avant de rentrer.
Moi, je suis ici pour manger, pour faire la photo, peindre avec mes camarades pour faire des photos, juste pour les photos.
Cap sur un autre lieu de divertissement. Nous sommes à Canal Olympia Ologuede. Contrairement à la place de l'Amazon, ici, nous notons un calme cet après-midi. Nous avons rencontré un jeune papa accompagné de son fils. Ils sont en promenade.
Tu es venu avec les enfants pour leur épanouissement. C'est juste une balade pour faire plaisir aux enfants. Après ça, nous allons faire un tour à la plage.
Quand on est sorti là, on est allé acheter des habits pour la fête.
Il faut dire qu'à Cotonou, la fête se poursuit tous les soirs dans les bars, les restaurants et les boîtes de nuit. Et cela va durer tout le mois de janvier, nous ont confié les Cotonois.
Et pendant que certains Cotonois étaient en fait à la place de l'Amazon et autres lieux de divertissement, l'association Autisme Bénin, en collaboration avec le mouvement ASMA, Action pour la Santé Mentale en Afrique, a organisé mercredi 3 janvier 2024 une table ronde sur la psychopathologie infantile et spécifiquement sur l'autisme et les troubles du spectre autistique. C'est la Bourse du Travail de Cotonou qui a servi de cadre à la dite séance de discussion. Elle a réuni professionnels de la santé mentale, étudiants à la Faculté des sciences de santé, parents des enfants à besoins spécifiques et autres acteurs œuvrant pour la non-discrimination des enfants à besoins spécifiques. Erwan Olidi nous fait le point.
La séance de discussion a réuni professionnels de la santé mentale, étudiants à la Faculté des sciences de santé, parents des enfants à besoins spécifiques et autres acteurs œuvrant pour la non-discrimination des enfants à besoins spécifiques. Gilles Arsène Aizon est psychologue et clinicien et président de l'Autisme Bénin. Il nous parle de l'objectif principal de cette table ronde.
Cette table ronde sur les psychopathologies infantiles, c'est quand même pour regrouper des collègues, des amis autour de cette thématique parce que on trouve que d'abord les enfants, les adolescents sont très peu pris en compte au niveau de la santé mentale. Or, ce sont des êtres très fragiles. Donc il faudrait que la psychopathologie se penche aussi vers cette couche-là.
Il ne faut pas s'opposer aux gestes et faits des enfants à besoins spécifiques, recommande le psychologue clinicien Gilles Arsène Aizon. Il nous dit ce qu'il faut faire pour tisser des liens d'amitié avec l'enfant victime de troubles du spectre de l'autisme TSA.
Les enfants qui présentent les TSA, les troubles du spectre autistique, ne sont pas dans le lien. Ils sont dans leur monde, en quelque sorte. Donc, ils ne tapent pas de table pour embêter quelqu'un. Lui le fait, en réalité, pour contenir l'angoisse qui l'envahit. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas aller à l'opposé. Si vous allez à l'opposé, l'enfant devient très agressif parce que vous imaginez quelqu'un qui a peur d'une situation. Vous le poussez vers la situation. Il va se défendre de toutes les manières. Tisser de lien avec lui, c'est commencer par faire la même chose que lui. Et à partir de ce moment, il est surpris que quelqu'un vienne dans son monde. La personne peut l'orienter et l'amener là où on souhaite.
La Gloire Amoussou est étudiant en psychologie. Il nous dit ce qu'il a retenu de cette table ronde.
La psychologie, de manière générale, n'est pas quelque chose qui est une affaire de blancs ou de riches. Donc, il y a des enfants au Bénin qui souffrent de troubles psychologiques. Et je peux dire que j'ai appris de nouveau, notamment dans les expériences pratiques qui ont été énoncées, l'intervention ou bien de cas où le TSA semblait ou s'assimilait à d'autres affections psychiques.
À noter que Autisme Bénin et Action pour la Santé Mentale en Afrique sont des associations à but non lucratif portées sur la problématique des TSA.
D'un atelier à un autre, le jeudi 4 janvier 2024, les femmes professionnelles des médias se sont retrouvées à l'Institut des sciences biomédicales appliquées, ISBA de Cotonou, pour apprendre davantage sur les questions d'ordre environnemental et l'importance de l'implication du genre sur ces questions. C'est une initiative conjointe du CBRSI, Centre béninoise de la recherche scientifique et de l'information, et de l'IRHOB, l'Institut de Recherche Halieutique et Océanologique du Bénin, l'importance de l'océan, la nécessité de préserver les ressources maritimes et hydrauliques sont autant de questions qui ont été abordées lors de cet atelier initié par l'Institut de Recherche Halieutique et Océanologique du Bénin. Suivez ici les appréciations de quelques participants à l'issue de l'atelier.
Je retiens que tout ce que je produis comme déchet a de fortes chances de finir dans l'océan, que ça aura forcément des répercussions sur moi. Donc je retiens la nécessité de préserver cette richesse. En tant que journaliste, je pense déjà transmettre ce que j'ai reçu ici par ce que je vais écrire. Donc je vais sensibiliser mes lecteurs sur tout ce qui a été dit au cours de cet atelier, parce qu'il n'a pas seulement été question de l'observation des océans. On a parlé de beaucoup d'autres choses. On a également parlé de l'érosion. Ça me donne énormément d'idées. Il y a mon cerveau qui bouillonne là. Il y a beaucoup d'idées que je pense voir, que je me donne le défi de transformer en production journalistique.
J'ai été invitée à cet atelier comme bon nombre de femmes des médias. Cet atelier qui porte sur l'implication des femmes des médias justement par rapport à la protection des ressources halieutiques, par rapport à l'océan de façon plus... Elles ont profité également, les femmes bien sûr, ont profité pour mettre en place un réseau de femmes capable de défendre désormais les intérêts de l'océan, de toute l'humanité. C'est grâce à l'océan que nous respirons, de l'air pur, que nous respirons l'oxygène. Donc l'océan, c'est une source de vie. Et puis le réseau Women GMS in Africa qui booste beaucoup l'effort des femmes, de façon générale, les femmes engagées à cette thématique.
Reste avec les femmes pour dire que les violences gynécologiques obstétricales sont des actes, des comportements, des abstentions qui infantilisent la femme et qui conduisent à un traitement déshumanisant à son endroit. Il existe différentes formes de violences gynécologiques obstétricales, parmi lesquelles nous avons la position gynécologique, qui est une pratique violente classée dans les violences obstétricales. Selon Annick Nonoron, sage-femme juriste spécialiste en droits humains, la position gynécologique est une technique dangereuse que les femmes ne devraient jamais adopter.
Le fait de mettre la femme en position couchée pendant qu'elle vient en consultation prénatale ou pendant qu'elle veut accoucher, la femme ne devrait jamais adopter cette position parce qu'il s'agit d'une position dangereuse. Une position violente, très inconfortable, qui entraîne des conséquences négatives sur la santé. Cette position est très douloureuse et rend les contractions plus douloureuse et inefficace. Plus la dame est en position couchée, plus elle a mal. Le col va s'épaissir, le col ne va pas vite se dilater, le travail d'accouchement sera long et ça va mal finir.
Faire le test de virginité à notre fille est une forme de violence gynécologique car cela a un impact négatif sur l'intégrité mentale de l'enfant. Le parent qui demande à vérifier la virginité de sa fille orchestre une forme de violence gynécologique, déclare Annick Nonon, la sage-femme juriste spécialiste en droits humains, sujet aux parents d'éviter de contrôler la virginité de leur fille.
Il ne sert à rien d'aller contrôler la virginité d'une fille. Et quand nous voulons aller plus loin, parfois, il y a des hymens qui sont complaisants. La fille a régulièrement ses rapports sexuels, mais l'examen de l'hymen ne va pas permettre au gynéco de dire oui, elle a les relations sexuelles, mais elle n'en a pas. Quand on va encore plus en détail, il y a beaucoup de filles qui réellement n'avaient pas de relations sexuelles, mais pas la restitution non fondée ou la restitution injuste faite aux parents de l'examen gynécologique, de l'examen de l'hymen, sont allés à l'acte sexuel et ont chopé des IST. Et d'autres ont même, malheureusement, ont chopé le VIH. Ce qui importe, c'est la communication parent-enfant, montrer à l'enfant quels sont les risques qu'il encourt, lui donner les conseils et l'accompagner dans sa sexualité.
Eh bien, c'est ainsi que se referme votre 37 de la semaine de ce lundi 1er janvier à ce dimanche 7 janvier 2024. Merci de nous avoir suivis. Présentation, Fortuné Doutin. Réalisation technique, Tibus Arérénou. L'information continue sur Radio Afrique Santé.